Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous. Ce matin, comme tous les matins, vous avez souri en reconnaissant les visages familiers de vos enfants. Vous vous êtes également souvenu du mode d'emploi de votre machine à café. Et sans même y penser, vous vous êtes rappelé votre trajet pour vous rendre à votre travail. Vous avez donc sollicité votre mémoire à chaque instant. Nos invités, eux, ne peuvent plus compter sur elle. Suite à un choc, un traumatisme ou un accident, ils ont perdu une partie de leur passé. Et aujourd'hui, pour se retrouver eux-mêmes, au-delà du puzzle qui manque, ils se battent au quotidien. Tout à l'heure, le docteur Azouvi, qui est neurologue, nous éclairera et nous aidera à comprendre le fonctionnement complexe de la mémoire. On retrouvera également Jean-Philippe Doux pour ses questions-réponses. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre premier invité, c'est Jacques Michel. Bonjour Jacques Michel.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
On va commencer tous les deux parce que votre histoire est vraiment singulière. Votre vie a basculé, vous, c'était le 25 juin 1987, vous aviez 30 ans. Où est-ce que vous vous êtes réveillé, Jacques Michel ?
Je me suis réveillé devant l'Opéra de Paris. Je me suis réveillé dans un brouillard monstre, j'avais comme un brouillard devant les yeux et je me suis réveillé devant l'Opéra comme dans un mauvais rêve. J'étais habillé avec un petit blouson et j'avais des patins, donc des pantoufles aux pieds.
Vous habitiez Paris ?
Et je ne savais pas où j'habitais.
Ah, vous ne saviez pas ? Oui, oui, ma question, forcément.
Je ne savais pas où j'habitais. Ce que je me suis aperçu très rapidement, après le fait de m'être recasé géographiquement, donc ouais. L'opéra, Paris, sur moi une alliance, donc je suis marié, et très rapidement, peut-être en quelques heures, est venue la question, à savoir, qui je suis ? Et je me suis aperçu que je ne savais pas qui j'étais.
Vous n'avez pas eu un coup de panique totale ?
Il y a eu
même
panique,
un problème de respiration, genre.
La panique énorme. Et à un moment donné, j'ai vu que j'avais un sachet à côté de moi,
ouais.
Un sac en plastique,
ouais.
Que j'ai fouillé comme si c'était pas le mien. J'ai regardé autour de moi si personne me regardait pour prendre le sac, l'ouvrir.
Vous saviez pas d'ailleurs.
Regarder ce qu'il y avait dedans, si c'était à moi ou pas. Et dedans, il y avait. Une carte de Paris. Il y avait un ticket de métro. Et il y avait un crayon et un petit carnet. Et impudiquement, j'ai lu ce qu'il y avait dessus. Et je me suis tout de suite aperçu que c'est moi qui avait écrit, pendant apparemment plusieurs jours, parce que j'ai écrit « Je suis à Beaubourg, je ne reconnais pas les lieux, mais c'est impressionnant. » Comme quoi j'étais au bord de la Seine, je me lavais les pieds dans la Seine, etc.
Ça, vous ne vous souveniez pas de tout
je
ça.
Je ne me souvenais pas. Et je redécouvrais à la lecture ce que j'avais fait. J'ai dit, mais j'ai bougé. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai vu qu'il y avait une cabine téléphonique à côté de moi. Et en voyant cette cabine, je me suis dit, attends, là, j'ai mes patins, donc des chaussons d'intérieur aux pieds. Ouais. Je ne suis pas habillé plus que ça. Ça se trouve, je suis sorti pour téléphoner ou que quelqu'un va m'appeler. Et je ne voulais pas m'en éloigner. J'ai dit, si je n'ai pas quelqu'un à appeler, c'est que quelqu'un va m'appeler. Donc si on m'appelle, on va me retrouver, il n'y a pas de souci, on va me dire, tiens, t'habites derrière, t'es couillon, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et puis je vais remonter, puis tout va aller bien. Et ça s'est pas passé, j'ai pas quitté cette cabine téléphonique jour et nuit. J'ai dormi dans la cabine jusqu'au jour où des policiers qui m'avaient repéré, sûrement errant, parce que j'étais errant dans le coin de l'opéra,
ouais.
Depuis 3 ou 4 jours. Et la police avait remarqué un nouvel errant,
ouais.
Et ils ont fait, ils m'ont réveillé gentiment. Ils ont contrôle d'identité, monsieur.
Et là,
contrôle
il n'y a rien à répondre.
De qui, de quoi ? Et au lieu de les voir protecteurs, je suis parti en courant.
Et vous avez eu peur ?
J'ai eu peur, oui, j'ai eu peur. Mm-hmm. J'ai pris peur de cette question qui était une agression. Une agression, dire je sais pas, c'est tellement délirant. Et je savais que c'était délirant. Et quand ils m'ont réveillé, donc je suis parti, ils ont couru plus vite que moi, ils m'ont arrêté.
Ouais.
Assez gentiment, avec un pistolet sur la tempe, parce que bon, j'ai appris après que c'était pas pour m'agresser, c'était pour protéger peut-être les autres. Ils savaient pas du tout qui j'étais.
C'est ironique quand vous dites un pistolet sur la tempe ?
Ah non, c'est pas ironique. Je
on
m'étais
vous a
caché.
Vraiment réveillé avec un pistolet sur la tempe ?
Pas quand on m'a réveillé.
Non.
Quand ils ont couru après moi, je me suis caché sous une voiture.
D'accord.
Ils m'ont tiré par les pieds et ils m'ont retiré de la voiture. Et là, j'ai eu le pistolet sur la tempe. Ils m'ont embarqué immédiatement et emmené au poste de police où ils m'ont interrogé une grande partie de la nuit. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un problème qui les dépassait. Ils ont attendu le chef qui est venu le matin, après m'avoir mis dans une cellule pour me protéger et protéger l'entourage. Le chef est venu, il s'est aperçu qu'il y avait un problème de fond qu'il ne pouvait pas gérer. Il a appelé le préfet pour savoir quoi faire. Le préfet a donné une autorisation pour une spécialisation d'office en hôpital psychiatrique. Et je me suis donc retrouvé à l'hôpital Sainte-Anne après un bref passage chez un médecin qui m'a examiné.
Sous quelle identité ?
Alors, dans un premier temps, il n'y avait pas d'identité. J'ai été interné en tant qu'inconnu. On m'a ensuite appelé Monsieur X.
Monsieur X.
Monsieur X, parce qu'au bout de plusieurs jours, on nous donne des médicaments. Hein, c'est ce qu'on appelle la camisole chimique. Et sur ma boîte de médicaments, il y avait une croix. J'étais Monsieur X.
Pour pas que vous fassiez du mal aussi, cette camisole chimique ? Ils avaient peur pour votre vie ?
Peut-être pour la mienne, peut-être pour la leur aussi. Hein, j'étais quand même très agressif. On est agressif quand on ne sait pas qui on est.
Et alors, comment ils ont pu remonter pour retrouver votre identité ? Comment ça s'est passé ?
Alors, il s'est passé plusieurs mois, parce que je suis rentré à l'hôpital psychiatrique au mois de juin.
Ouais.
Et je n'en suis ressorti, enfin, on m'en a ressorti qu'au mois d'octobre. Donc, il s'est passé 122 jours avant que les miens puissent me reconnaître. Mais pour qu'ils puissent me reconnaître et revenir me chercher,
il fallait que votre mémoire se réveille.
Il a fallu que j'en ressorte quelque chose. Les médecins avaient remarqué que j'avais un accent plutôt de l'est de la France, plutôt que breton ou parisien.
Ouais.
J'avais notamment nommé mes chaussons aux pieds mes patins. J'avais des patins aux pieds. Et les patins, c'est une expression lorraine. J'avais un sac en plastique que j'avais appelé le cornet. J'avais mon cornet en plastique. Et le cornet en plastique, c'est très est de la France aussi. Donc géographiquement, ils avaient quand même situé les choses.
Mais votre famille, qui devait être morte d'inquiétude, n'a pas déclaré votre disparition
Alors, le gros problème, c'est que ça s'est passé en 87. Aujourd'hui, les disparitions suspectes peuvent être déclarées beaucoup plus rapidement. Avant, il fallait 15 jours de disparition pour qu'une femme, puisque j'étais majeur, une femme ou des parents, puissent faire une recherche dans l'intérêt des familles.
D'accord.
Ensuite, ils avaient également remarqué, parce que j'étais en atelier d'art-thérapie, donc je dessinais, et ils sont aperçus que je dessinais bien. Donc c'était également un petit message qu'ils avaient mis de côté en disant, tiens, il y a peut-être un truc, il dessine bien, c'est sympa. Mais ça leur suffisait pas pour trouver mon identité. Et ils sont aperçus qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose de moi, quoi, parce que moi j'étais très agressif dans le milieu. Je voyais la télévision où ils recherchaient par exemple un labrador. Il y avait 30 millions d'amis, je recherche un labrador. Et quand j'ai vu le labrador en train d'être recherché, j'ai cassé la télévision. En disant, mais je m'en fous du labrador, c'est moi. Pourquoi je suis pas à la télé ? Pourquoi on me recherche pas ?
Ouais. Vous aviez aucun flash pendant cette période ? Des trucs qui vous revenaient comme ça ?
J'étais très content quand tout d'un coup on me demandait de jouer au ping-pong et je m'apercevais que je jouais au ping-pong. On me demandait de jouer aux cartes, je savais jouer au tarot.
En fait, vous redécouvriez ce que vous saviez faire.
Voilà, ça faisait des déclics.
Des déclics, mais voilà. Ça suffit pas pour remettre une identité.
Ça suffit pas. C'est ce que Proust a appelé les déclics des petites madeleines. Donc par rapport à un objet, par rapport à un bruit, par rapport à un son, par rapport à une odeur.
Ça donne pas votre nom, ça.
Mais ça donne pas le nom. Donc il y avait juste des petits indices et le fait de savoir que j'avais une amnésie, mais pas une amnésie globale. Les médecins ont dit que j'avais une amnésie identitaire, que je me souvenais simplement pas de ce que j'avais, mais par contre, quand j'ouvrais un livre, je voyais la tête de Napoléon, je savais que c'était Napoléon.
Donc vous connaissiez l'opéra Napoléon, mais
voilà,
pas votre nom.
Mais pas mon nom.
Incroyable.
Et donc un médecin, un professeur de l'hôpital Sainte-Anne, qui s'appelait le professeur M., je peux dire son nom parce que malheureusement ce professeur est décédé, je crois, aujourd'hui, a tenté une expérience sur moi en disant, écoute, on va aller plus loin et je vais tenter des séances de pré-narcose avec toi. Donc ce sont des séances où on injecte un produit qui est du pain total. C'est ce qu'on servait pendant la guerre en tant que sérum de vérité. Sérum qui n'est pas forcément légal à l'utilisation et qui le serait encore beaucoup moins aujourd'hui.
D'accord.
Mais je ne viens pas sur cette. Je ne vais pas faire polémique par rapport à ça. C'est grâce à ce produit.
Moi, je pensais que c'était que dans les films, les sérums de vérité.
Non, c'est grâce à ce produit quand même qu'il y en a surgi quelque chose. On m'avait dit que ces séances allaient être enregistrées et qu'on en parlerait après. Donc j'allais le plonger dans un demi-sommeil.
Et qu'ils allaient vous faire écouter les choses.
Et qu'ils allaient me faire écouter. Donc quand j'ai été réveillé suite à la première narcose, ils ont refusé que j'écoute. Et le professeur a dit ça n'a pas marché. Il n'en est rien sorti, on étudie, laisse-nous étudier. Ça va faire plus de mal qu'autre chose. Plusieurs jours, voire une semaine après, ils ont décidé de refaire une deuxième séance qui, elle, n'a rien donné non plus. Et là, le médecin a dit, on arrête, c'est trop fort. et ça ne rime à rien. Je lui dis, écoute, moi j'ai le cerveau qui est grillé, tant qu'à me le griller complètement, va au bout. Et il a accepté de refaire une troisième séance. Après cette séance-là, quand je me suis réveillé, il m'a convoqué dans son bureau et il avait un sourire. Il dit, on ne sait pas qui tu es, mais il y a certaines petites choses qui pourraient peut-être nous dire quelque chose.
C'était quoi, c'est
juste ? Et ils m'ont dit, voilà, dans ta narcose, tu as dit un prénom qui pourrait ressembler à celui de Charles Élie.
Et Charles Élie.
Voilà. Et il dit, entre-temps, donc, on a contacté ce monsieur. Je lui dis, c'est qui ? Il me dit, c'est un chanteur qui est connu.
Charles Élie Couture ?
Charles Élie Couture.
Mais vous aviez prononcé Charles Élie Couture ou juste Charles Élie ?
Charles Élie. Un mot, un prénom qui pouvait ressembler à Charles Élie. Voilà.
Donc, ils l'ont contacté ?
Ils l'ont donc contacté. J'ai eu la chance qu'il soit sur Nancy. Et quand l'hôpital lui a téléphoné en disant, voilà, on a un mec qui est complètement zoné, qui est complètement paumé, qui n'a plus de mémoire. On lui a fait des séances de narcose et le seul souvenir qu'il ait de son passé, apparemment, c'est votre prénom.
C'est fou parce que vous auriez pu juste être un fan, un admirateur de Charles Élie Couture. Oui. Ils ont quand même été jusqu'au bout de la piste.
Ils ont été au bout et quand Charles Élie a dit « Attends, tu es en train de me dire qu'un mec zoné a juste en mémoire peut-être mon prénom. » Il s'est complètement dingue ce truc. Il dit « Moi, qui suis un mec qui ne me suis jamais trouvé, c'est quand même incroyable, je fonce, j'arrive. » Et
il est venu. Mais il vous connaissait ?
Et non, pour le moment, il ne savait pas qui j'étais. C'était juste un mec zoné. Mais il est venu. Il a dit, il faut que je vois ça, il faut que j'y aille. Quoi. On me demande, on a peut-être une mémoire de moi. C'est peut-être la seule mémoire qu'il peut avoir de sa vie.
Bien.
Je vais l'aider, j'arrive. Et il s'est pointé. Et j'étais en train de dessiner. Et on est venu me chercher en art-thérapie pour me dire, il y a un mec qui t'attend dans le bureau du professeur. Je suis rentré dans le bureau du professeur, on m'y a accompagné. Et il y avait un mec avec une moitié de capuche relevée, qui était de dos. Le professeur qui était en face de moi, qui s'est levé, qui avait un grand sourire. Et je suis rentré.
Vous l'avez reconnu ?
J'ai vu un inconnu de dos. Ah ouais. Et il s'est retourné sous le côté. Il m'a regardé, il me dit, qu'est-ce que tu fous là, vieux con ?
Incroyable ! Il vous connaissait ?
Il me connaissait, il me dit, putain, je ne sais plus qui tu es, je ne connais plus ton prénom, mais dans tous les cas, on a fait les 400 coups ensemble, on était au Beaux-Arts de Nancy ensemble.
Mais il ne savait plus qui vous étiez, il ne connaissait plus votre prénom.
Il me dit, je ne me souviens pas de ton prénom, ni rien du tout, mais il dit, c'est sûr que tu es de Nancy, on a fait l'école ensemble, donc t'inquiète pas, t'es retrouvé mon pote.
Et vous, de le voir ? Et ça vous a fait quoi ? Ça a réveillé quelque
sympa.
Chose ?
Non.
Ah non.
Non, ça a réveillé encore de nouveau un vide et une crise d'angoisse. Il m'a dit, calme-toi gros, je vais m'arranger avec les docteurs, on va sortir, on va aller boire un coup et on va aller bouffer.
C'est ce que vous avez fait ? Vous êtes allés bouffer tous les deux ?
Les médecins ont accepté et on est sortis de l'hôpital et il m'a emmené pour manger.
Et là, vous avez remonté le fil progressivement ?
Alors,
il
a essayé de me poser pas mal de questions, mais sans me brusquer. C'était un beau mec.
C'était
un très beau mec. Il ne voulait pas me brusquer, il voulait juste passer un bon moment et que je me calme et que j'ai confiance en lui.
Et alors, les jours ont passé ?
Les jours ont passé, et un jour, j'étais de nouveau en train de peindre en art-thérapie, et j'étais bien concentré sur mon travail, et un infirmier rentre en disant « Jacques Michel, coucou Jacques Michel ».
Vous ne retournez pas parce que vous ne saviez pas que c'était votre nom ?
S'il y en a un là-dedans qui ne répond pas, il va se prendre une piqûre dans le cul, c'est sûr. Et je regarde autour de moi... personne qui était intéressée, et l'infirmier qui dit, c'est à toi que je cause. Monsieur X, tu t'appelles Jacques Michel, t'as ta famille qui t'attend. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu me fais là ? Il dit, c'est bon, on t'a retrouvé. Charles Élie a tenu sa promesse, et viens avec moi, et viens au petit salon, et tu as tes parents qui t'attendent, et tu as ta femme. Je dis, oh putain, c'est dingue.
Comment ça s'est passé quand vous êtes retrouvés nez à nez avec votre famille ?
Alors, on m'a fait rentrer dans ce petit bureau, et j'ai vu des gens qui avaient été briefés pour pas qu'ils se précipitent vers moi. J'ai vu deux personnes que je considérais âgées, qui avaient le même âge que j'ai aujourd'hui. Alors, c'est dingue. Donc, ils n'étaient pas âgés du tout. Mais c'était donc mes parents. Et on m'a présenté en disant, c'est ta maman, c'est ton papa. Et il y avait une petite brunette qui était à côté, et en disant, c'est ta femme. Je dis, waouh, elle est bonne.
Elle est jolie.
Elle est bonne, elle est belle.
En même temps, c'est votre femme, j'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez.
Je dis,
vous la trouvez charmante.
J'avais bon goût, les deux vieux qui étaient là, j'en avais rien à faire. Et je voyais trop de tristesse également dans leurs yeux, et je voulais pas être confronté à cette tristesse.
Alors que dans les yeux de votre femme, il y avait quoi ?
Dans les yeux de ma femme, moi, il y avait de l'amour.
Elle vous regardait avec un amour infini.
Ah ouais, ouais, ouais. Elle revivait, quoi, elle revivait en me voyant vivant.
Comment ça
lâchez-moi, je vais repartir avec.
Et alors justement, est-ce que vous êtes reparti avec votre famille?
Ah non, pas tout de suite.
Ah,
non.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite. Quand ils étaient venus, ils sont venus avec des photos. Les photos ne mentaient pas. J'ai vu des photos de moi avec ma femme. Tout allait bien, j'avais à peu près le même visage.
Ouais.
Donc je me reconnaissais. Par contre, mes parents m'ont montré des photos de moi quand j'étais bébé, quand j'étais petit, quand j'étais ceci. En plus de ça, on me dit tout d'un coup, et en plus de ça, que j'ai deux enfants, que j'ai un frère, que j'ai une tante, que j'ai un oncle, que j'ai ceci.
Vous les avez pas vus à ce moment-là, vos enfants?
Non, hein. Mes enfants n'étaient pas venus.
Vous les avez vus bien plus tard?
Oui, il y avait Sandrine qui avait donc au moment-là 6 ans, et puis Henri qui avait 1 an et demi.
Quand vous avez vu cette photo-là, par exemple, vous avez réagi comment?
Alors ces photos-là où j'avais quand même un âge, où j'avais donc 24 ans ou 25 ans.
Ouais.
Je les reconnaissais à peu près.
C'est vous avec votre femme et votre fille?
C'est moi avec ma femme et ma fille. Mais quand mes parents m'ont montré moi petit, moi adolescent, etc., je ne me reconnaissais pas. Il faut apprendre son passé avec non seulement un seul visage, mais plein de visages différents. J'avais été aussi un enfant. J'avais été aussi aimé dans les bras de ma maman. Et tout
ah
ça.
Oui, donc il faut vous appréhender mari, papa. Ouais, donc il y a beaucoup d'identité.
Il y a beaucoup d'identité à reprendre. Il n'y en a pas qu'une.
Comment vous avez recréé un lien avec eux? Comment on reconstruit son. Ne serait-ce qu'avec ses enfants? Parce qu'on a bien compris, votre ouais. femme, ça allait être assez facile finalement d'aller, oui. de retomber amoureux d'elle. Mais vos enfants, comment ça se passe?
Mes enfants étaient plus des petits gamins qui étaient là, mais qui ne m'intéressaient pas. Ils ne m'intéressaient pas, je ne ressentais rien pour eux, si ce n'est que c'était des enfants qui étaient bien gentils, des fois même emmerdants, parce que j'aurais envie qu'ils ne soient pas là. Donc il n'y avait aucun sentiment.
Il n'y avait pas de fibre paternelle.
Il n'y avait pas de fibre paternelle.
Et ça doit être culpabilisant, ça, quand on vous dit ce sont vos enfants et qu'on ne ressent rien.
Non, sur le moment, ça ne l'est pas, puisqu'on ne ressent rien, justement.
Ouais.
On ne peut culpabiliser que quand on ressent. On me demandait d'oublier que j'avais oublié. Pour que j'oublie justement mon handicap.
Ouais, je comprends.
C'est ce qu'on me demandait. Et celui qui me le demandait, il s'en souvient encore. J'étais assez brutal envers certaines personnes, et notamment envers mes parents. Mes parents qui n'acceptaient pas que j'ai pas de passé. Ils n'acceptaient pas que je puisse pas me souvenir d'eux. C'était pas possible.
Mmh.
Et maintenant que je suis moi-même papa, et je suis même grand-père maintenant,
ah, vous l'étiez déjà, vous dites maintenant que je suis moi-même papa.
Oui.
C'est-à-dire que depuis, vous avez eu un autre enfant.
Oui.
Un troisième enfant.
Un troisième enfant.
Avec votre épouse.
Oui.
Et là, il y a quelque chose, du coup, qui s'est éveillé en vous, la fibre paternelle.
Oui.
Et là, vous êtes senti papa. Alors, est-ce que, du coup, ça a réveillé ce que vous aviez ressenti
Ça a réveillé une certaine fibre. Trois ans après, alors que j'étais tout le temps en train de me rechercher, en oubliant mes enfants, en oubliant mes parents, en oubliant mon père, ma mère, mes soeurs, mon frère, toute ma famille, sauf la petite brunette qui m'intéressait. Ah, j'y reviens, la petite brunette. Hein. C'est peut-être grâce à elle aussi que...
Oui, j'ai bien compris. Ça a été votre pilier,
même,
votre point de repère.
Pilier, hein. C'est Martine qui, à un moment donné, elle en avait marre de me voir me perdre dans la recherche de moi-même. Elle me dit, écoute, c'est bon. Regarde dans mes yeux, regarde, chérie. Dans mes yeux, tu dis quoi? Il dit, dans les tiens, moi, je vois de l'amour. Et regarde voir dans les miens, tu vois pas une étincelle, tu vois pas que je t'aime? Je dis, si, ça peut ressembler effectivement à de l'amour, ça. Elle me dit, écoute, si on s'aime et si on veut être de l'avant. Tu as eu du mal avec tes parents, c'est normal. Tu as eu du mal avec les enfants, c'est normal aussi. Tu ne penses qu'à toi actuellement, arrête de penser qu'à toi. Essaie de penser à ta famille parce que tu es père, tu es fils, tu es mari. Et elle dit, avec moi, c'est plus facile de se reconstruire. Puisque quand on s'est marié, on s'est connu au cours de notre vie. On avait déjà un passé, toi de mon côté, de ton côté, et un passé du mien. Maintenant, on fait que de recommencer. Jusque maintenant, tu m'as dragué, c'est bien. Aime-moi. Moi, je t'aime. Et elle me dit, si on peut aller de l'avant ensemble pour te prouver mon amour et te dire que tu en as vraiment, je veux qu'on refasse un troisième enfant. Et je me suis laissé faire, c'est sympa hein, de refaire un gosse. Hein. et donc on a eu Emmanuel. Emmanuel, qu'on a appelé Emmanuel, qui est l'enfant de l'espoir. Quoi. Et Emmanuel, quand j'ai vu Emmanuel grandir, le ventre de Martine grossir, les deux enfants que j'avais, Sandrine et Pierre-Henri, on touchait le ventre de la maman, écoutait, chantait des chansons au bébé qui était en train de pousser dans le ventre.
Et donc tout ça,
et ils m'ont incité à venir et à toucher et à chanter avec eux et à le sentir bouger à un moment donné et sentir que autour de ce bébé qui allait venir au monde, il y avait une femme, une épouse, une belle femme et plus une bonne femme, quelqu'un de beau. Et que ces enfants-là, bah, c'était les miens. Je pense que j'ai adopté mes deux premiers enfants et je suis papa de la troisième. Je m'en suis excusé, j'ai eu l'occasion de le faire envers mes enfants. Mais on peut énormément aimer un enfant adopté aussi. Donc j'ai deux enfants adoptés et j'ai un enfant que j'ai, qui a réveillé en moi cette fibre paternelle, ce besoin d'aimer et de partager.
Elle est magnifique, votre histoire. En fait, vous avez arrêté de regarder le passé et vous avez fini par vous concentrer sur le présent et l'avenir.
Oui.
Et c'est ça qui vous a sauvé.
C'est
aujourd'hui, vous savez vraiment qui vous êtes, Jacques Michel. Est-ce que vous vivez avec ces 30 ans de noir ou aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé, vous avez tout reconstruit, ce puzzle?
On sait ce qui s'est passé, puisqu'on a donc retrouvé cette personne qui a fait une agression similaire. Donc on sait que je me suis fait agresser un soir, alors que l'on était donc mariés depuis 6 ans. On avait une petite fille de 6 ans, un petit garçon d'un an et demi. J'étais architecte, j'avais un bon métier. On venait de construire une maison. On avait une belle voiture.
Et vous êtes allé la garer un soir,
Martine,
cette voiture?
Le soir, alors que le film allait commencer, me dit « Je vais coucher les enfants, profites-en quand même avant que le film commence. » De rentrer la voiture. Et je ne pouvais pas accéder à mon garage parce que la maison n'était pas finie. Il fallait que je sorte. Donc c'est là que j'ai mis mes patins, mon petit blouson, sortir. Et là où j'étais très mauvais conducteur, ou je ne sais quoi, mais quand elle est redescendue, il n'y avait plus de mari. Et ce mari, elle l'a retrouvé 122 jours plus tard, grâce à Charles Lely et à la police. Mais donc je me suis fait agresser en sortant de mon domicile. On m'a tapé sur la nuque pour voler ma voiture. On m'aurait mis dans le coffre, emmené à un endroit, peut-être de Metz, où ça s'est passé, jusqu'à Paris. Ça fait quand même loin, 400 km. Est-ce qu'on m'a largué dans un train? Et puis je me suis retrouvé à Paris comme ça. Nul ne le sait. J'ai 3 jours de blackout total. Mais on ne m'a pas volé que ma voiture. On m'a volé 30 ans de ma vie. On m'a volé une grande partie de ma vie.
En tout cas, c'est magnifique, ce discours que vous tenez aujourd'hui avec beaucoup de lucidité. Comment avancer avec cette amnésie? Je suis persuadée que votre expérience va aider Niels, qui lui s'apprête à vivre seul pour la première fois de sa vie avec son amnésie, comme vous. Je vous propose qu'on aille le retrouver avec sa maman Karine, mais également François, qui va nous livrer aussi un témoignage rare.
Avec un immense plaisir.
Bonjour Niels, Karine, François, merci infiniment d'être sur ce plateau. Bonjour docteur Azoubi, vous nous écoutez depuis tout à l'heure. C'est difficile d'imaginer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, même si Jacques Michel l'explique tellement bien. 30 ans d'années de sa vie, vous pouvez m'aider à comprendre une amnésie totale? Ce qui est fou, c'est le côté je me souviens de l'opéra, je sais reconnaître Napoléon, mais je ne sais pas avec qui je suis mariée. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ce qu'on sait a priori, c'est que dans ce genre d'amnésie, en général, il n'y a pas de lésion cérébrale documentée derrière. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des troubles de mémoire qui ne sont pas rattachés à une lésion. Il n'y a pas de lésion traumatique. Quand on fait des examens d'imagerie, vous en avez sûrement eu, des IRM, vous savez, des scanners, ouais, tout ça. En général, on ne trouve rien. Et on parle d'amnésie fonctionnelle, dissociative ou même psychogène parfois, sans que les mécanismes en soient très très bien connus.
Donc on ne comprend rien en fait. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la science ne comprend pas trop.
Voilà, alors il y a des interprétations qui existent. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est ces dissociations quand même qui sont rapportées, qui illustrent bien les choses. Par exemple, notamment cette dissociation entre ce qu'on appelle la mémoire rétrograde et antérograde. Ça l'illustre très bien parce qu'en fait, donc vous avez oublié toute une partie de votre passé, mais la mémoire à partir du jour J où vous vous êtes réveillé fonctionne très bien. Mmh. Et vous avez tout à fait pu finalement nous raconter tout ce qui vous est arrivé depuis 1987 de façon très précise. Donc votre capacité à acquérir de nouveaux souvenirs fonctionne finalement très bien. Donc votre mémoire au sens classique. Donc c'est vraiment cette perte d'identité du passé, enfin, qui touche très spécifiquement l'identité et les souvenirs personnels, qui est assez atypique et curieuse.
Le gros problème, si je peux me permettre, au niveau de mon amnésie, donc, qui maintenant dure depuis 30 ans, hein, parce que j'ai repris une vie depuis 30 ans et j'ai perdu mes 30 premières années, dont je me souviens plus ou pas du tout, avec peut-être un guillemet, puisque quand on m'a reconstruit, quand on m'a parlé, quand on m'a expliqué qui j'étais, etc., etc., ce sont mes parents qui m'ont enseigné les choses, ma femme qui me les a enseignées, et des amis, mes cousins, mon frère, etc. Tout le monde m'a dit, tu étais comme ceci, tu as fait cela. On m'a gavé avec des photographies, mais aussi avec beaucoup de mots, avec beaucoup de lieux. Les gens cherchaient l'effet de la petite Madeleine, justement, qu'il n'y a apparemment pas eu. Mais à un moment donné, toute cette mémoire-là, c'est une mémoire qui vient des autres. Donc on a l'impression d'être reconstruit par les autres, parce qu'on n'est jamais vu que par l'extérieur. Bien souvent, on dit, mais mets-toi à ma place, rentre en moi, tu sauras qui je suis. Parce que l'autre en face, il ne sait jamais qui on est. Et donc j'avais l'impression d'être reconstruit de façon artificielle, peut-être même comme les gens auraient voulu que je sois, ou comme ils me voyaient simplement.
Oui, c'est ça.
Et cette mémoire-là est devenue ma mémoire livresque. Aujourd'hui, est-ce que je sais, est-ce que je saurais voir la différence entre une vraie mémoire ou cette mémoire livresque qu'on m'a rapportée, j'en sais rien.
Et vous ne savez pas si vous êtes le même ?
Je ne sais pas si je suis le même, non. Et aujourd'hui, le fait, j'ai arrêté de rechercher ma mémoire parce que si j'ai été reconstruit artificiellement par rapport aux désirs et aux yeux et au cœur des autres, par les autres. Et si aujourd'hui je découvre que cette reconstruction est fausse par rapport à ce que j'étais réellement, qu'est-ce que ça me ferait ? Est-ce que ça ne me ferait pas de nouveau un second choc psychologique ? Donc je pense qu'il y a également un renfermement et une non-mémoire que je vais mettre entre guillemets, un gros guillemet, pratiquement inconsciemment mais volontaire.
Nils, vous, est-ce que vous vous souvenez de la date de votre accident ?
Oui, on me l'a dit, mais enfin moi-même, je ne me souviens pas. Quoi. C'est juste, on me l'a dit le 18 avril 2011, mais pour moi, c'est...
18 avril 2011.
Oui, c'est...
Ouais. Vous aviez 25 ans, Nils ?
Oui.
Et vous avez eu un grave accident de voiture ?
Oui.
Vous avez pas une mémoire de votre passé, vous souvenez de votre passé, mais vous avez un problème de mémoire immédiate.
Oui, carrément.
Et avec ce qui s'est passé il y a 5 minutes, vous l'oubliez régulièrement.
Oui, carrément. Ah, oui, ça n'arrête pas. J'oublie ce qu'on va manger, machin. Enfin, c'est tous les détails de la vie quotidienne. Je zappe complètement. Je peux oublier assez rapidement tout ce qu'on fait à l'instant T. Quoi.
Ça c'est-à-dire que ce soir, par exemple, vous aurez peut-être oublié qu'on a passé l'après-midi ensemble, c'est ça, Nils ?
Non, pas ce point, non. Mais c'est des détails.
C'est des détails.
Genre, ce que vous me dites...
Par contre, vous aurez oublié les questions que je vous ai posées, ou ce que vous avez mangé à midi, c'est ça, Karine ? Et vous, quand vous l'avez récupéré, votre fils, après cet accident, avec ce grave traumatisme crânien, il a fallu, lui, réapprendre tout, manger, marcher, tout.
Oui, tout.
Et la mémoire.
Oui, alors la mémoire, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience tout de suite des problèmes de mémoire. Parce que quand on l'a récupéré, déjà Nils a fait un très long coma. A mis beaucoup de temps à parler. Donc sans la parole, c'est difficile de savoir ce qu'il se souvient ou pas d'ailleurs. Et en fait, c'est petit à petit. Alors, on se rendait pas trop compte qu'il n'y avait pas de mémoire immédiate, mais il était assez délirant. Il a eu une période assez délirante. Enfin, on voyait qu'il n'était plus du tout...
connecté avec la réalité.
Oui.
Même la chose aberrante, c'est que j'ai sorti que j'étais le fils de Dieu et du Père Noël.
Le fils de Dieu et du Père Noël ?
Oui.
Ça fait beaucoup.
Oui, voilà, c'était le genre de
bon que je tenais, quoi.
Il tenait à l'époque. Et après, c'est petit à petit... les médecins, vous en avez quand même parlé, en disant qu'il aurait, il aurait besoin d'une vie très ritualisée, une répétition des choses.
Des points de repère.
Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer, docteur, qu'il retrouve sa mémoire ? Est-ce que c'est définitif, des troubles de la mémoire, tels que ceux de Nils, quand c'est des lésions qui peuvent l'expliquer ?
Alors oui, là, on est dans une situation de traumatisme crânien sévère. Oui. On voit d'ailleurs que c'est un type de trouble qui est complètement finalement opposé à celui au vôtre, puisque finalement la mémoire du passé est relativement bien préservée, même s'il y a peut-être quelques imprécisions.
Oui. Mais c'est la mémoire immédiate.
Voilà, la difficulté en fait, c'est à acquérir de nouvelles informations, à fixer de nouvelles informations, sans que ce soit complètement impossible. Simplement, les souvenirs sont finalement, vont être plus difficiles à acquérir, vont être plus fragiles, plus instable, et c'est ce qui explique que, par exemple, il va peut-être avoir des difficultés pour se souvenir d'une liste de courses, qu'il doit acheter des choses. S'il ne le liste pas, probablement, il va avoir du mal à se souvenir. Il va avoir du mal à apprendre des nouvelles choses, qui peut être gênant, par exemple, pour quelqu'un dans la vie professionnelle qui doit se souvenir de ses rendez-vous, se souvenir qu'à telle heure, il faut aller à tel endroit. Voilà, donc c'est complètement différent, sans que ce soit une amnésie complète. C'est-à-dire qu'il est capable quand même d'acquérir des souvenirs, mais ils vont être moins efficaces, moins bien structurés. Donc on peut aider ces patients par de la rééducation à progresser.
Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dizaine de jours, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, Nils, vous vous êtes lancé pour la première fois dans une vie seule.
Oui.
Ça faisait des années que vous habitiez avec votre maman, Karine, et qu'elle vous réapprenait à vivre et à essayer de gagner en autonomie.
Oui,
et notre journaliste est venu vous accompagner pour voir à quoi pouvait ressembler cette vie ritualisée où vous avez des troubles de la mémoire immédiate, ce qui est évidemment très handicapant.
Oui, c'est bien.
On va découvrir ces images et on en parle après. Regardez. Okay.
Tu te rappelles quelle journée là ?
Le mercredi.
Eh non.
Ah bon ?
T'es sûr que tu l'as pas mis ? C'est parce que tu en avais hier. Hein.
J'ai pas sucré mon chat.
T'en avais mis ?
Ouais, je pense.
Oui, je pense aussi. Allez, go. On y va. On a souvent l'habitude d'aller faire les courses ensemble où je l'emmène souvent au même supermarché pour que lui ait des repères. Où là, je le mets entre guillemets à l'épreuve. Je te donne ta liste, tu fais comme d'hab, moi je suis dans le magasin. Et j'essaye de voir s'il arrive vraiment à suivre sa liste de courses ou non.
C'est pas bon tout. C'est où je sais plus moi. Ça m'énerve.
Ça peut être compliqué pour lui. Il y a des jours ça passe, il y a des jours il en a marre ou ça va l'agacer un petit peu ou alors il va nous dire. Oui, bah, je suis pas parfait, hein, personne n'est parfait. Voilà, ça va être des petites phrases comme ça. Ou...
C'est quoi ça ?
On va dire que moi, je suis un peu la tête de Nice. Faut que je pense à tout en permanence. Et à la fin de la journée, ça peut être fatigant.
Le cidre doux, tu l'as ?
Non, je sais pas.
Donc, il te manque le cidre doux ?
Le cidre doux et le sucre stellaire.
Et le sucre.
Ça peut arriver qu'entre-temps, il ait vu autre chose et que du coup, il ait complètement oublié sa liste et que bah, il revienne avec autre chose et que je lui dise, bah alors, Nice, elle est où la liste ? Ah oui, mince, bon, on va la reprendre et puis voilà.
Attends, c'est quoi ça ?
Nils, à la base, on est parti pour aller chercher du site visuel.
Oui.
Ça sert à rien. Ça va, tu t'es pas mal débrouillé ? C'est bien ?
Merci.
Merci. Il est conscient de son trouble de mémoire et en même temps, il veut pas le montrer.
Bon, on fait quoi cet après-midi ?
Cet après-midi
Essaye de réfléchir, il n'y a pas des choses de prévues, mais des choses importantes un peu aujourd'hui ?
Bah, si, si, ma...
C'est
une crémaillère, mais...
Si, c'est ça, sa crémaillère.
Ce soir, il a sa crémaillère, donc cet après-midi, on va préparer des petits amuse-bouches, tout ça.
Oui.
Du coup, on avait dit brochette, tomate, mozzarella. Tu prends ce qu'il faut dans le frigo. Donc là, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Sa demande, c'était d'avoir son appartement, être autonome un maximum. Je veux vraiment le laisser faire, c'est vraiment son moment à lui, c'est important.
On le débarrasse à Nice, ça dure, on fait un petit karaoké après ?
Oui, carrément.
Sa musique, c'est sa passion. Sa mémoire musicale n'a pas été touchée.
Bonsoir,
C'est des moments qui le rendent vraiment heureux, il est vraiment bien, c'est vraiment son univers, sa passion, c'est très important pour lui. Nils, c'est quelqu'un de joyeux, qui est très attachant, très gentil. Il y a une barrière professionnelle à garder, mais de l'autre côté, quand on est avec une personne autant d'heures par semaine, forcément, il y a un lien qui se crée.
Check ma boule. Oui, on peut.
Bonsoir.
Ah, ça, madame Pat.
Oui.
Je pense que c'est important, sa crémaillère ce soir, de montrer voilà, que là, c'est chez lui, que maintenant, c'est sa vie à lui.
Merci à tous. Et puis, j'ai profité au maximum de l'appartement, de la vie. Puis, voilà, que je vais kiffer ma life maintenant.
Je suis super content, très fier, très fier.
Vraiment que du bonheur. Oui, c'est du bonheur.
On fait tous un chin ensemble. Il prend son envol. Pour lui, c'est une renaissance. Voilà, au moins je me dis que bah même si j'y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je me dis que c'est pas pour rien et moi-même ça me rend heureuse.
Bravo.
Tiffany nous a rejoint sur ce plateau. C'est une relation particulière qui vous unit aujourd'hui, hein, vous qui êtes aide de vie sociale. À quoi vous devez penser en permanence ? Pour lui.
Tout ce qui va être, voilà, ces rendez-vous, tout ça, où là, il faut penser. Et après, ça va être des bêtises, des choses vraiment de la vie de tous les jours, en fait, mais que Nils, lui, il ne va pas penser. Ça peut être tout, je ne sais pas.
Oui, ça part de la date, de l'heure, du jour qu'on
le
est.
Repérer,
à l'endroit où on est.
On lui fait un petit tableau le soir avant qu'on parte, moi ou mes collègues. Et comme ça, le matin, quand il se lève, il sait quelle jour on est, quelle AVS vient et ce qu'il a comme programme dans la journée.
Comment vous vivez, vous, depuis une dizaine de jours, seul? Vous êtes heureux, enfin, vous êtes...
Heureux, c'est clair. Heureux, puis j'ai pas peur, je suis vraiment bien, je suis... je sais pas comment dire, c'est... En fait, tout handicap est surmontable et que faut pas lâcher, en fait.
Alors François, tout d'abord, je voudrais vous dire un grand bravo pour votre courage, car c'est un témoignage très rare que vous allez nous livrer aujourd'hui. Vous êtes militaire et vous avez été victime d'un syndrome post-traumatique. Et on va voir que cela a un impact vraiment considérable sur votre mémoire. Déjà, c'est la première fois que vous en parlez, François ?
De mes troubles de mémoire, oui. Donc après, en fait, j'ai commencé à parler et à être pris en charge du syndrome post-traumatique en me rendant compte que j'avais des gros soucis.
Pourquoi vous avez décidé d'en parler aujourd'hui et ici ?
Bah parce que, en fait, déjà, c'est angoissant de ne pas se rappeler de certaines choses de son passé. Ensuite, une peur aussi de savoir ce qui peut arriver. Pardon ?
Prenez votre temps, je comprends.
Et donc, c'est vrai que c'est très difficile de vivre au quotidien en ayant peur d'oublier des choses importantes. Il y a un sentiment de culpabilité parce que, en fait, dans la vie quotidienne, c'est vrai que ça paraît anodin, mais se souvenir de rendez-vous pour ses enfants, de la date de naissance de ses enfants ou de plein de choses, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par rapport aux autres, il peut y avoir un sentiment de comme quoi qu'on fait pas attention à notre famille ou en fait aux choses importantes. Donc alors que c'est pas ça, c'est vraiment qu'on est dans l'impossibilité de se rappeler. Donc
c'est ça qui vous ronge, en fait, la culpabilité d'oublier quelque chose d'important,
voilà,
pour votre famille,
dire,
et pour les gens que vous aimez.
En fait, c'est vrai que quand on a été militaire, parce que je ne suis plus militaire, j'ai été militaire, on nous apprend et on en est fiers d'être fort. On nous apprend à avoir du tempérament, à relever la tête, bomber le torse, comme on dit à l'armée. On doit pas montrer nos faiblesses.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'à l'armée, comme on nous apprend, de s'excuser ou autre chose, c'est un signe de faiblesse. Donc, j'ai réalisé plus tard que non, c'est pas forcément. Des fois, de dévoiler ses faiblesses, ça peut être une force pour essayer de se grandir. Et justement, ça peut montrer à sa famille que c'est pas parce que on oublie certaines choses qu'on ne les aime pas. Au contraire.
Et c'est aussi pour ça que vous avez. Que vous êtes là aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup d'opérations extérieures en tant que militaire.
Oui, donc j'ai fait 16 opérations extérieures. Donc j'ai un peu voyagé partout, beaucoup en Afrique. Donc j'ai fait Congo, Sénégal, Tchad, le Gabon, Djibouti, la Guyane, la Réunion, l'ex-Yougoslavie deux fois. En Afghanistan, c'était une mission de combat. Parce qu'en fait, ma fonction, c'était auxiliaire sanitaire ou brancardier secouriste en unité de combat. Donc en Afghanistan, c'était une mission qui sortait vraiment. Enfin, c'était vraiment une mission vraiment une belle mission parce qu'on se sentait vraiment utile là-bas. On savait qu'on n'y était pas pour rien. Je veux dire, quand on menait nos.
C'est toujours très douloureux de l'évoquer.
Pardon. Mais en même temps, c'était très dur. Parce qu'on a perdu beaucoup de copains et le retour a été très dur.
À quel moment vous avez commencé à constater qu'il y avait des symptômes, des choses qui n'allaient pas, des cauchemars, des crises d'angoisse ?
Alors au début, c'était parce qu'en fait, par rapport au syndrome post-traumatique, il y a beaucoup de troubles. Il y a des troubles du comportement, de l'angoisse, de l'anxiété, comme je vous ai dit, de la frustration. Et en fait, dans le quotidien, j'oubliais pas mal de choses, des rendez-vous, des objets, mes clés, cartes de crédit, mes numéros de carte. Alors au début, on ne fait pas attention, on se dit que c'est de l'inattention. Et puis on se dit, tu réfléchis tellement que bah, voilà, c'est normal.
Fais attention, tu passes
à travers. Attention. Après, j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai pris le volant de ma voiture et de partir à des endroits et d'un seul coup, en conduisant,
puis savoir où vous alliez, ouais.
Ce que j'allais faire et où j'allais, quoi.
Bien sûr.
Donc là, on se rend compte qu'il y a un réel problème, quoi. Et donc là, on commence à se poser des questions. Et après, quand les médecins ont commencé à me prendre en charge, donc psychiatres et psychologues, quand ils ont commencé à me poser des questions sur mon enfance, je suis incapable de décrire mon enfance, de savoir où j'ai passé mon enfance, de parler de copains, de copines, des endroits où je suis allé à l'école, tout ça, j'ai aucun souvenir. J'ai quelques souvenirs vagues à partir du CM2. Et pareil au niveau de mes souvenirs de l'armée, de tous mes stages, mes classes. Je ne suis pas capable de retrouver des prénoms et des noms de camarades de l'armée. Alors que, bon, à l'armée, c'est important pour nous. Pour nous, c'est comme une deuxième famille, l'armée. Et donc, je ne suis pas capable de redonner des noms, quoi.
Ce que je trouve très bouleversant dans votre histoire, c'est que, au-delà des problématiques quotidiennes d'oublier des clés, ce qui vous traumatise, c'est la symbolique de ces oublis. Je ne veux pas oublier le nom de mes copains en Afghanistan. Je ne veux pas oublier le rendez-vous des enfants que j'aime tant. Ce qui vous blesse énormément, c'est de pas pouvoir vous montrer aussi loyal, aussi à la hauteur des gens
voilà,
que vous aimez.
C'est par rapport à la vision que pourraient avoir les autres en pensant que c'est vraiment qu'on ne s'intéresse pas aux gens, alors que pas du tout. Au contraire, enfin, je suis quelqu'un qui s'attache facilement aux personnes quand j'ai confiance. Et je donnerais tout pour j'étais capable de donner ma vie pour sauver un copain. Donc voilà, c'est quelque chose de fort. Donc du coup, c'est vraiment pas...
C'est pas en adéquation avec ce que vous êtes.
Voilà,
en fait,
c'est pas vraiment...
Révélateur de vous.
Révélateur de moi, quoi.
Je voudrais qu'on accueille Delphine, qui est votre femme, parce que j'ai envie qu'elle vienne vous soutenir. Delphine, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Bienvenue parmi nous, Delphine. Ah, voilà, ça fait du bien de se serrer un peu la main. Vous vous êtes rencontrés à quel moment, en fait, vous deux?
Donc, en fait, j'ai rencontré mon épouse après ma deuxième mission. Donc à ce moment-là, j'avais vraiment une forte colère en moi.
Ouais.
J'étais vraiment, pas aigri, mais vraiment un sentiment vraiment de frustration de me dire à quoi je sers. Pour moi, la vie était devenue monotone, la vie normale. Et donc quand j'ai vu donc mon épouse chez sa sœur, en fait, j'ai vu une femme très douce, très belle. Comment sa beauté, elle m'a tout de suite sauté
très
aux
bonne,
yeux.
Très bonne, aurait dit Jacques Michel.
Je préférerais dire belle pour moi. Mais voilà, c'est sa douceur vraiment qui m'a plu chez elle. Bon, à ce moment-là, j'avais 4 enfants. J'avais divorcé en 2005. Et en fait, j'avais vu cette belle femme qui était l'opposé de moi. Et je me sentais... en la rencontrant et en ayant une relation avec mon épouse maintenant, je me suis dit qu'elle me soignerait dans tous les côtés, quoi, qu'elle m'apaiserait, qu'elle me rapporterait de la douceur. C'était pour moi un ange qui tombait du ciel, quoi.
Vous avez senti cette colère en lui, cette frustration?
Oui, un petit peu, ouais.
Ouais, un petit peu. Et aujourd'hui, est-ce que... Où vous en êtes de ces problématiques quotidiennes de mémoire? Ça va de mieux en mieux? Ça restera comme ça? Quel regard vous portez là-dessus?
J'ai beaucoup de questions justement par rapport à ça, parce que, bon, comme je vous ai dit, étant donné que je n'en ai pas parlé, bon, je n'ai pas vu de spécialiste en médecine, à part psychiatre et psychologue pour le syndrome post-traumatique. Mais en fait, j'ai beaucoup de craintes, parce que je ne sais pas si ça peut être... si ça va s'installer... Si je peux retrouver la mémoire, ou alors si je retrouverai pas du tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, quoi. Donc j'ai beaucoup d'interrogations
pour
ça.
Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans ces chocs post-traumatiques qui peuvent justifier, expliquer cette perte de la mémoire? Qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on peut retrouver les choses au fur et à mesure que cet homme va s'apaiser?
Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir. En fait, dans l'état de stress post-traumatique, à la base, c'est quoi? En fait, c'est une réaction émotionnelle extrêmement intense face à une situation très, très violente avec sensation de mort imminente, enfin confrontation à la mort, à la perte d'intégrité physique. Donc on voit ça beaucoup, comme vous, chez les personnes confrontées au théâtre d'opération dans les conflits, mais aussi chez les victimes d'attentats. Il y en a beaucoup en ce moment, bien sûr, voilà, ou des accidents très violents. Et en fait, l'élément central de l'état de stress post-traumatique, en fait, c'est les souvenirs envahissants. C'est, vous avez peut-être ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle des flashbacks ou des phénomènes de reviviscence. C'est-à-dire les souvenirs tourne en boucle. En fait, la personne n'arrive plus à inhiber ses souvenirs. C'est une espèce, finalement, d'hypermnésie, avec ses souvenirs qui reviennent en boucle, comme des flashbacks
au cinéma. Qui, du coup, le coupe du quotidien, parce que ça...
Voilà,
ça...
exactement. Et donc, ces souvenirs, c'est exactement ça. Donc, ces souvenirs sont tellement envahissants, voilà, qu'ils empêchent le fonctionnement normal du cerveau. C'est ces ruminations qui tournent en boucle. Et le cerveau a des ressources cognitives qui sont limitées. Donc, quand toutes ces ressources sont consommées par ces ruminations, ces souvenirs qui tournent en boucle, le cerveau, finalement, n'est plus disponible pour traiter les informations du quotidien normalement. Donc, alors bon, je sais pas, je peux pas évidemment dire dans votre cas précis, mais l'idée, c'est que si on arrive, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a différentes thérapies qui existent, vous en avez peut-être fait, à pouvoir arriver à inhiber ces souvenirs envahissants, cette anxiété, ces ruminations, on peut espérer que derrière, le cerveau se remette à fonctionner normalement, parce que le cerveau lui-même n'est pas abîmé, n'est pas lésé, en tout cas pas de façon aussi
physique.
Physique, voilà, exactement.
Matériel.
Voilà, donc, ouais. Est-ce que vous allez pouvoir arriver à trouver ces thérapies qui permettent d'arriver à inhiber ces souvenirs envahissants pour retrouver un fonctionnement
normal? Ça passera par des thérapies.
Oui, voilà. Ouais.
Et vous avez, vous aussi, des souvenirs qui vous ruminez, des flashs comme ça?
Oui, on y est. En fait, constamment, je pense. En fait, il y a certaines odeurs. L'odeur de la mort, c'est des choses qui reviennent. Et en fait, comment? Voilà, j'ai des images. Je me suis occupé, comme je vous ai dit, j'étais infirmier. Je suis intervenu sur des enfants qui avaient sauté sur des IED, c'est des engins explosifs. Donc c'est vraiment des images. Quand on a des enfants en plus, en tant que père, voilà, on fait forcément une projection. Donc c'est des images qui nous restent. On peut se préparer. L'armée, quand elle nous a envoyé là-bas, nous a parlé de ce qu'on allait vivre, nous a dit ce qu'on allait découvrir. Mais tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte. Et c'est vraiment très forte violence. On ne peut pas se préparer quand on est quelqu'un d'humain. Et puis qu'on. Voilà, toute personne normalement saine aime la vie et n'est pas là pour ôter la vie. Donc voilà, c'est pas quelque chose auquel on peut se préparer vraiment, quoi.
Et merci beaucoup pour votre témoignage, car vous nous permettez de leur rendre hommage à tous ceux qui sont sur le terrain à travers vous. Oui, docteur.
Je peux faire un petit commentaire par rapport à ça. C'est ce que vous dites, très intéressant, parce que pendant très longtemps, en fait, ces états de stress post-traumatique ont été un peu niés par les autorités militaires qui, en fait, ont eu du mal à... Il faut même savoir que pendant la guerre de 14, il y a des soldats qui ont été fusillés parce que ils étaient dans ces stress post-traumatiques tellement intenses qu'ils étaient incapables de retourner sur le front et qu'ils ont été considérés comme déserteurs, alors qu'ils étaient tout simplement dans un état de sidération anxieuse absolument majeur. Et il a fallu du temps pour que les médecins militaires fassent comprendre à la hiérarchie militaire que non, ce n'était pas ni des simulateurs, ni des traîtres, ni des déserteurs, mais qu'ils étaient dans un état de souffrance psychique tel qu'ils étaient tout simplement incapables de retourner dans ces tranchées.
Jacques Michel, je vous vois très touché par l'histoire de François.
Ah bah oui. Il est en pleine souffrance. Tu disais tout à l'heure que tu ne voulais pas trop que ça se voit, quoi, en réalité. En réalité, il faut le montrer. Il n'y a
vous
rien de plus malheureux.
Avec votre boucle d'oreille, vous le montrez.
Je le montre, voilà.
C'est
par
quoi,
exemple,
cette boucle d'oreille?
C'est mon trou noir. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon handicap.
Vous avez une pierre noire?
J'ai une pierre noire qui est là. J'ai une perle noire également autour du cou qui est le symbole de ma perte de mémoire, de mes 30 ans de mémoire, de mon trou noir, vraiment.
Ça fait partie de vous.
Ça fait partie de moi.
Et c'est le conseil que vous donnez à François, ne pas le cacher.
Bien sûr, il ne faut pas le cacher. Je dis, on est peut-être en petits morceaux, il nous manque quelque chose, mais il ne se voit pas forcément. C'est bien plus souvent facile de dire j'ai un bras en moins, parce que ça se voit. Avoir un morceau de mémoire en moins, c'est beaucoup plus délicat. On a peur de froisser, on a peur de faire peur également. Et ça, c'est quand même terrible. Je crois qu'il faut se dire un truc, c'est que la Vénus de Milo, elle est belle comme elle est. Elle serait peut-être pas plus belle si elle était complète. On l'aime comme elle est. Donc, arrivons à se faire, à nous aimer, parce que ça passe déjà par s'aimer, s'accepter, pour que les autres nous acceptent. Moi, j'ai mis un temps fou pour le faire. Aujourd'hui, de cet handicap, j'essaie d'en faire une force. J'essaie de passer un message de positif à tout le monde. Et je me rends compte que si vous êtes là tous aujourd'hui, c'est que vous voulez quand même quelque part partager.
Bien sûr,
vous voulez montrer
bien sûr.
Qui vous êtes réellement. Oui. Montrer que vous n'êtes pas qu'un petit morceau cassé. Mmh. Vous êtes quelqu'un de complet. Mmh. Quand on prend la rénovation d'un bâtiment, tout compte fait, le bâtiment restera toujours quelque chose de rénové. Mmh. Ça ne sera jamais un bâtiment neuf. Mmh. On ne sera jamais des gens neufs. Mmh. On vivra avec notre handicap. On est handicapé. On est des ruines. Ce qui est important quand même. Le plus important, pour qu'une ruine, elle perdure et qu'elle puisse être visitée avec plaisir et avec amour, je pense que c'est les fondations. Mmh. Et les fondations, il ne faut surtout pas les oublier. Et les fondations, c'est l'entourage qui nous apporte notre amour. C'est l'amour que l'on apporte également qui fait que l'on consolide nous-mêmes notre entourage. Tu parlais d'enfants tout à l'heure. C'est important d'être responsable. On est des racines quelque part. On est des racines. Si on ne prend pas racine, on va faire crever toutes les branches. Et de là, toutes les feuilles, il n'y aura plus de fruits, il n'y aura plus rien. Donc on est responsable de tout ça. On est responsable de soi-même. Mmh. On est beau.
Merci Jacques-Michel. Jean-Philippe, venez nous rejoindre. Et pendant que vous installez, je vais demander à Delphine justement si vous le stimulez, François, au quotidien, pour être vigilante à ce qu'il ne... à peut-être qu'il arrive à recouvrer sa mémoire. Est-ce que vous faites attention à ça?
Oui, je l'aide un petit peu. Hein. Je l'aide beaucoup. Hein.
Alors, stimuler sa mémoire, c'est possible,
Jean-Philippe? Oui, c'est important. Alors là, bien sûr, on est dans des cas extrêmes qui, en effet, peuvent chacun mériter un scénario de film. Mais vous qui nous regardez, vous dites, bah oui, moi, je connais quelqu'un qui perd un peu la mémoire ou moi-même, je perds un peu la mémoire. Il faut savoir que c'est aussi une peur qui est répandue vraiment dans la population française. Il y a une étude récente de l'IFOP qui montre que près de 80% des 65 ans et plus craignent les pertes de mémoire, mais aussi les 25-34 ans. Donc, ça concerne tout le monde, les pertes de mémoire. Alors, comment faire? Alors, j'ai pas de recette miracle, mais j'ai au moins des astuces. Par exemple, au niveau de l'alimentation, ça commence dès le matin, un petit déjeuner. Eh bien, pour le petit déjeuner, vous allez prendre un petit déjeuner complet, riche en glucides. Alors, les glucides, pourquoi? Eh bien, parce que ça va vous éviter déjà de vous endormir, ça va vous donner de l'énergie, parce que, en fait, pour bien retenir, il faut aussi être énergique, être attentif aussi, ne pas subir les choses. Si vous subissez les informations que vous avez autour, vous ne les encoderez pas. Il faut dormir aussi, 6 à 8 heures, hein, c'est ce qui est recommandé chaque nuit. Si vous ne pouvez pas...
Quand t'entends le public, tu dis, bah, ça fait bien longtemps que je n'ai pas dormi 6 à 8 heures, moi.
Eh bien, c'est dommage, parce que dormir permet de bien mémoriser toutes les informations nouvelles qu'on a eues dans la journée. Si vous n'avez pas le temps de dormir autant, eh bien, une petite sieste, bon, avant l'émission, bien sûr, ou après, pas pendant l'émission, une demi-heure.
Pas pendant.
Non. Une demi-heure de sieste, ça équivaudrait à 1 heure à 2 heures de sommeil la nuit.
D'accord.
On va aussi occuper son esprit. Alors, occuper son esprit, on pense tout de suite à lire. Oui, il faut lire. On peut aussi jardiner. Jardiner, ça occupe l'esprit aussi parce que, voilà, on est actif. En plus, on est actif.
Et pour éviter peut-être physique. Les ruminations dont on parle, en effet.
Voilà. Jouer. Alors, les classiques, le Scrabble, le Sudoku, qui maintenant est un classique
très à
aussi.
La mode.
Pour bien retenir, j'ai aussi des astuces très concrètes. La première, c'est la répétition cadencée. C'est-à-dire qu'en fait, vous apprenez une information, une heure après, eh bien, vous la répétez pendant 10 minutes, ça va vous permettre de le retenir pendant une journée. Et le lendemain, eh bien, vous repensez à cette information pendant 5 minutes. Là, ça va vous permettre de tenir pendant une semaine. Et puis, quelques jours plus tard, eh bien, vous le faites juste pendant 3 minutes. Ça vous permet de tenir un mois. Donc, les informations importantes, vous les répétez. De moins en moins, elles seront de toute façon toujours là.
Je voudrais que vous restiez ici pour les questions-réponses parce que Jacques-Michel va aussi, et nos invités vont nous aider à y répondre. Est-ce qu'on a justement des questions de nos internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux? Vous êtes très nombreux d'ailleurs, merci pour vos messages.
Et suite à l'appel à témoins, eh bien, on a eu beaucoup de questions, notamment Baria de 34 ans. Depuis toujours, j'ai une mauvaise mémoire, prénom, date, etc. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Comment puis-je simplement muscler la mémoire? Est-ce que c'est un muscle la mémoire?
Ah non, la mémoire, c'est pas un muscle. C'est une fonction très complexe qui dépend de tas de facteurs. Donc, on peut la stimuler.
Mais pas la muscler.
Voilà, exactement. Donc après, les personnes qui se plaignent de défauts de mémoire, ce qu'il faut déjà, c'est voir à quoi c'est dû, en fait. Parce qu'il y a plein de causes possibles. D'ailleurs, on en a eu 3 exemples aussi aujourd'hui. Donc la première chose, c'est déjà d'agir sur la cause. Par exemple, souvent, la plainte mnésique, la première cause la plus fréquente, c'est en fait l'anxiété, la dépression qui envahit le cerveau et qui empêche la mémoire de fonctionner normalement. Et puis, il peut y avoir d'autres causes. Donc la première chose à faire, c'est de voir pourquoi la mémoire ne fonctionne pas bien, donc de l'objectiver avec des professionnels, par des tests, et ensuite de voir les solutions qu'on peut proposer face à ça, il en existe diverses, mais tout dépend finalement de la cause qui est derrière, enfin, du mécanisme qui explique ça.
On a aussi beaucoup de questions de l'entourage, parce qu'on a vu la force et l'importance de l'entourage pour ces personnes qui ont des problèmes de mémoire. Et en fait, comment réagir quand on se rend compte que notre proche, notre conjoint, notre mère, commence à avoir des oublis, ce qu'on appelle des oublis?
La première chose, ce que j'évoquais, c'est déjà de savoir pourquoi. C'est savoir à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce qu'il y a une pathologie? Est-ce qu'il y a un syndrome dépressif derrière?
De quand faut s'alarmer?
Quand ça devient gênant dans la vie quotidienne. Quand ça entraîne un retentissement par des oublis tels que ceux qu'on a évoqués dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne. Donc là, en effet, il faut voir quelle est la cause. Est-ce qu'il y a une cause psychologique? Est-ce qu'il y a une cause médicale? Puis après, il y a le vieillissement physiologique aussi qui fait que, de façon physiologique, après 65-70 ans, la mémoire est moins efficace, fonctionne un petit peu moins bien. Et c'est là où, justement, toutes les mesures d'hygiène de vie dont vous parliez sont hyper importantes. Parce que ça, je dirais peut-être pas tant le régime alimentaire, mais en tout cas le maintien d'une activité sociale, intellectuelle, de loisirs importante, des activités intellectuelles, ça a un effet préventif finalement sur le déclin cognitif et de la mémoire notamment.
Et le plaisir aussi.
On parlait d'art-thérapie.
Ouais, le plaisir, voilà, c'est important. Ouais.
La vie, quoi, tout simplement, rester dans une démarche d'activité.
On a des questions sur l'hypnose, je crois.
Oui,
c'est une vraie question.
Notamment Valérie, de 42 ans, qui nous envoie un mail en disant « L'hypnose est-elle une bonne méthode pour aider quelqu'un à retrouver la mémoire ?»
Alors, vous allez me dire, ça dépend de la cause. Michel parlait d'art-thérapie, est-ce que l'hypnose... vous allez me dire, ça dépend du cas.
Exactement.
Ça dépend,
mais
ça dépend,
c'est vrai que dans certaines situations, ça peut être utile. Je pense d'ailleurs dans des situations comme le stress post-traumatique, ça a été proposé, par exemple. Également dans des situations d'amnésie psychogène aussi, ça a été proposé.
Jacques-Michel, ouais.
On peut débloquer certaines choses par le fait d'être endormi, parce qu'il y a le subconscient que l'on enferme nous-mêmes par un stress, pratiquement volontairement, sans s'en rendre compte. Et le fait de libérer, d'être beaucoup plus calme sur ça, on détend son esprit, c'est le but de ces choses-là, on détend son esprit et on n'a plus de crainte à aller dans cette mémoire. Donc le fait de ne plus avoir peur de cette mémoire nous permet de l'appréhender, à mon avis, beaucoup plus facilement. Donc je dis oui. Ces endormissements, s'ils sont bien faits, sont certainement bons.
Bénéfique.
Je vois François qui vous écoute, en tout cas, avec beaucoup d'intérêt et qui boit aussi un petit peu vos paroles. C'est aussi à ça que sert cette émission, s'entraider et avancer. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci infiniment à tous pour vos témoignages qui vont certainement aider beaucoup de gens à la maison. On se retrouve très vite dans Ça commence aujourd'hui. Vous allez retrouver maintenant Daphné Burki et toute sa bande dans Je t'aime, etc. Et moi, je vais aller saluer mes invités si généreux avec vous aujourd'hui. Merci à tous et à demain.
Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous aviez un amant lorsque vous êtes tombée enceinte. Vous avez eu un enfant issu d'une relation extra-conjugale. Vous avez quitté votre mari lorsque vous êtes tombée enceinte de votre amant. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous par téléphone au 01 53 84 34 20, par mail ou sur la page Facebook de notre émission.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.